La terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle lui.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever.
Et voilà, c'est l'histoire de se mettre dans l'ambiance. Bonjour Michel.
Bonjour Joël.
Voilà, juste avant que vous présentiez votre chronique, voilà, moi je reviens de congé, donc Michel, en deux mots, sans raconter votre vie, cette période estivale, beaucoup d'astronomie, il y a eu la nuit des étoiles, on s'était vu, sans rentrer dans tous les détails.
Ben, on a fait la nuit des étoiles dans des conditions assez difficiles, parce que
la soirée,
c'était le vendredi qu'on avait préféré, nous, et c'était bien couvert, et par un fait exprès, c'est juste à 9h30 quand on commençait accueillir le public, qui a un petit trou dans les nuages qui nous a permis de voir la Lune. Et petit à petit, ça s'est dégagé. On a pu voir d'autres choses dans le ciel, heureusement. Et sinon, je fais pas mal d'astronomie là depuis quelques temps parce que j'ai un nouveau petit joujou, un oculaire un peu spécial. Et je partage un petit peu ça avec mes collègues astronomes amateurs. Et en particulier, samedi, j'étais avec AG33, avec Corinne, à SOCAT pour regarder ça avec eux.
Très bien, voilà, c'était histoire de se re-souhaiter bien sûr la bienvenue. Alors tout de suite, Michel, si vous voulez bien, votre 90e chronique. On rappelle constellationsetgalaxies.org pour les retrouver. Et là, pour ouvrir cette chronique, vous allez nous parler de l'actualité, bien sûr, et quelques brèves, bien, ça tombe sous le centre d'actualité autour de l'astronomie.
D'astronautique surtout.
D'astronautique, oui, pardon.
Avec l'actualité de la mission Artemis 1, largement commentée dans les médias depuis lundi, un événement historique marquant le retour des missions lunaires de la NASA plus de 50 ans après Apollo, notre chronique sera presque complètement consacrée à ce lancement et à ses suites, au point que j'ai décidé de supprimer notre traditionnel ciel du mois qui vient d'habitude conclure la chronique. En fait, l'effet combiné du décalage du ciel de 2 heures par mois et du raccourcissement des jours fait que le ciel du soir en septembre ne sera pas très différent de ce que j'ai décrit pour août, excepté pour les planètes Saturne, Jupiter et Mars qui se lèvent grosso modo 2 heures plus tôt. Donc je renverrai les auditeurs effectivement sur notre site web www.constellationsetgalaxies.org, soit à réécouter dans la rubrique Chronico du Radio le ciel du mois de août, ou d'aller directement dans la rubrique ciel du mois où aujourd'hui ou au plus tard demain, je mettrai à jour les informations pour septembre. Je vais quand même brièvement rapporter quelques informations importantes de ces dernières semaines concernant notamment les missions martiennes. Tout d'abord, pour rappeler que début août, le rover Curiosity de la NASA a fêté ses 10 ans passés à la surface de la planète rouge, où il s'est posé le 6 août 2012. Gros comme une Jeep environ et pesant près d'une tonne, il explore l'énorme cratère d'impact Gale de 154 km de diamètre, dominé par son piton central nommé Mont Sharp, haut d'environ 5000 mètres. Ce site avait été choisi car on supposait qu'il comportait un lac dans un lointain passé, donc une configuration favorable à la mise en évidence de traces de vie anciennes. Avec ses équipements de forage et d'analyse, notamment la caméra ChemCam, construite en France, qui permet d'analyser à distance la composition des roches en les pulvérisant avec un puissant laser, la mission de Curiosity est essentiellement géologique, pour déterminer si l'histoire du site confirme la présence d'eau liquide pendant une longue période, ce qui aurait pu être propice à l'apparition d'une vie martienne. Il a très clairement montré des roches sédimentaires qui n'ont pu se former qu'en présence d'eau et des galets qui ont été roulés dans un cours d'eau, donc une existence durable d'eau liquide à la surface de Mars dans un lointain passé. Avec les prélèvements effectués par sa foreuse et analysés par son laboratoire embarqué, il a aussi mis en évidence un excès de carbone 12, un isotope du carbone qui pourrait témoigner d'une vie biologique qu'il aurait produite, comme sur Terre. Durant son séjour de 10 ans, il a parcouru environ 27 km à la surface de Mars, les déplacements autonomes programmés depuis la Terre étant toujours très lents pour éviter les pièges des rochers martiens ou des zones sableuses où il pourrait se retrouver bloqué. D'ailleurs, ses roues sont très endommagées par l'abrasion des roches martiennes. Son trajet l'a amené à gravir les pentes du Mont Sharp depuis avril 2017 et il devrait se poursuivre tant que l'engin peut se déplacer malgré l'état inquiétant de ses roues. Et le successeur de Curiosité est bien entendu Perseverance, posé sur Mars depuis le 18 février 2021, dans le cratère G0, choisi car il contient le delta d'un fleuve, un site particulièrement adapté à sa mission. Construit sur une base analogue à Curiosity, avec des roues modifiées pour être plus résistantes, il possède des équipements similaires, notamment une Supercam, version améliorée de la ChemCam, elle aussi développée en coopération avec la France, plus précisément à l'IRAP, l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse. Mais une des missions principales de Perseverance est la collecte d'échantillons dans 42 tubes qui doivent être récupérés par une mission ultérieure conjointe avec l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, baptisée SLR, Sample Retrieval Lander, puis rapportée sur Terre. C'est concernant cette future mission que la NASA a fait une annonce importante fin juillet, mais je n'avais pas eu le temps d'en parler lors de la dernière chronique principalement consacrée aux Nuits des Étoiles. Pour la comprendre, il faut se souvenir d'une autre nouveauté de la mission Perseverance, le petit drone hélicoptère baptisé Ingenuity, emporté pour la première fois à la surface de Mars. Au départ, il ne s'agissait que d'une démonstration technique pour vérifier qu'il était possible de faire voler ce petit engin dans l'atmosphère très ténue de la planète rouge, pourvu qu'on le dote d'hélices suffisamment grandes, elles font dans les 1,20 m, et en les faisant tourner très vite, autour de 2500 tours par minute. Alors qu'on n'était même pas sûr de réussir un premier vol, mais en espérant quand même le tester progressivement sur 5 ou 6 vols, il a déjà accompli 29 vols et constitue un allié précieux pour la mission en pouvant explorer des terrains martiens avant de décider des trajets pour le rover. Du coup, la NASA a revu sa copie concernant la future mission SLR de récupération des échantillons qui devait comporter deux engins. Un petit rover de récolte des tubes pour les rapporter à une petite base de lancement équipée d'une fusée pour les envoyer en orbite martienne où ils seront récupérés par un vaisseau européen pour les rapporter sur Terre. Devant les difficultés de cette conception, avec l'envoi simultané de deux engins à bord du même vaisseau, et vu le succès d'Ingenuity, la NASA a décidé de renoncer au rover au profit de deux drones inspirés d'Ingenuity pour collecter les échantillons. C'est une déception pour l'ESA et surtout pour Airbus Industries, qui devait construire ce rover et travaille sur ce projet depuis 2018. L'ESA poursuit néanmoins le développement du vaisseau de retour sur Terre. Si tout va bien, la mission de retour des échantillons pourrait être lancée en 2026 et 2027 pour un retour sur Terre vers 2033.
Allez, toujours avec Michel Favré sur Eudo Radio, la chronique astro numéro 90. Et Michel, vous allez parler du thème, le sujet du mois, le retour vers la Lune avec Artemis.
Alors, comme je l'ai dit en début de chronique, la mission Artemis 1 est historique et doit se concrétiser très bientôt, même si le lancement prévu lundi n'a pas pu avoir lieu comme espéré en raison d'un problème sur un moteur, probablement dû à un capteur de température défectueux. Aux dernières nouvelles, il est reporté à ce samedi 3 septembre entre 20h17 et 22h17, heure française. Mais si cela échoue, hein, ce qui peut être le cas parce que pour le moment la météo est pas très favorable, une autre possibilité serait lundi. Sinon, la fusée devrait être retirée de son pas de tir, le même que celui des missions Apollo d'ailleurs, pour y revenir quand une nouvelle fenêtre de tir s'ouvrira à partir du 20 septembre. Pour nos auditeurs, ces moments favorables au lancement peuvent paraître un peu bizarres, mais il faut comprendre qu'une telle mission est soumise à de nombreuses contraintes. La position relative de la Terre et de la Lune, la trajectoire du retour pour la rentrée atmosphérique de la capsule, le souhait que le lancement et l'atterrissage aient lieu deux jours, la possibilité pour la capsule de ne passer qu'un temps limité, au maximum 90 minutes, dans l'ombre de la Terre car elle est alimentée par des panneaux solaires reliés par des batteries d'une capacité limitée, etc. Il y a d'autres contraintes. Pour parler du programme Artemis et de cette première mission, je pense qu'il peut être utile de le comparer à Apollo, puisque nous assistons à une sorte de répétition à 50 ans d'intervalle. D'ailleurs, le choix même du nom Artemis par la NASA incite à ce parallèle, car dans la mythologie grecque, cette déesse de la nature sauvage et de la chasse, l'équivalente de la Diane romaine, n'était autre que la sœur jumelle d'Apollon, Apollo en anglais. De plus, c'était l'une des déesses associées à la Lune. Quand on veut envoyer des hommes vers la Lune, il faut disposer d'une fusée très puissante. Pour le programme Apollo, c'était l'énorme Saturne V, jamais égalé depuis, avec ses trois étages totalisant 110 mètres de haut et un peu plus de 3000 tonnes au décollage. Pour Artemis, c'est le SLS, Space Launch System, qui n'a guère à envier à sa grande sœur avec 98 mètres de haut et 2600 tonnes. Sa conception est quand même assez différente, car, si j'ose dire, la NASA a fait du neuf avec du vieux, en réutilisant et modernisant des éléments qui avaient déjà fait leurs preuves auparavant. Il faut dire que le programme lunaire de la NASA a connu de nombreux déboires en fonction des engagements ou revirements politiques des dernières décennies, bien loin du challenge que le président Kennedy avait fixé aux USA lors de son discours du 25 mai 1961, en réplique aux réussites de l'URSS dans le domaine spatial, discours dans lequel il prévoyait de poser un homme sur la Lune, et précision importante qu'on oublie souvent, le ramener vivant sur Terre, avant la fin de la décennie, ce qui a été réussi effectivement en 1969. Artemis est le fruit d'une suite de projets et de renoncements depuis l'annonce en 1989 par le président Bush d'un programme d'exploration spatiale comportant une base lunaire permanente, programme abandonné notamment car le Congrès américain le jugeait trop coûteux. Programme revu en 2004 par son fils Bush, après l'accident de la navette Columbia qui annonçait l'abandon des navettes. Le programme baptisé Constellation prévoyait le retour d'astronautes sur la Lune avant 2020, avec une fusée Ares, inspirée de la Saturne V, et un vaisseau baptisé Orion. Suite au constat d'un financement insuffisant, c'est Obama qui annulera ce programme en 2010. Sans doute en raison de la pression de plus en plus grande de la Chine dans le domaine spatial, qui ne cache pas ses ambitions lunaires, et aux réflexions sur l'avenir de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui pourrait prendre la forme d'une station en orbite autour de la Lune, baptisée Lunar Gateway, la NASA recommence à étudier des missions lunaires à la fin des années 2010. Et c'est Trump, à l'approche du 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, qui relance en 2019 un programme lunaire habité, finalement baptisé Artemis, mais en essayant de limiter son coût, notamment par le réemploi de technologies éprouvées.
Et c'est donc le cas du lanceur SLS.
Effectivement. Nos auditeurs ont sans doute vu des images du SLS sur son pas de tir et on ne peut pas manquer de remarquer la présence de deux fusées annexes de part et d'autre de la fusée principale. Ce qui rappelle le décollage des navettes, avec deux propulseurs de chaque côté de l'énorme réservoir sur lequel était fixée la navette spatiale. Il n'a rien d'étonnant, car ces fusées d'appoint sont directement dérivées de ces propulseurs à poudre et apportent un supplément de puissance au décollage, dans les 15%, qui permettent, avec le premier étage du SLS, d'obtenir grosso modo la même poussée que les deux étages de la Saturne V. Environ 2 minutes après le lancement, les propulseurs annexes sont largués et vont retomber dans l'océan. Si on y prête attention, le premier étage du SLS ne nous est pas inconnu non plus avec sa couleur orangée, car il est dérivé du réservoir de lancement des navettes et équipé de 4 moteurs appelés RS-25D qui ont déjà été utilisés plusieurs fois lors des missions des navettes. 3 fois pour le plus récent, 4 fois pour celui qui a posé des problèmes lundi et 12 fois pour le plus âgé. On voit donc qu'au lieu de concevoir un tout nouveau lanceur, la NASA a surtout recyclé des dispositifs déjà bien éprouvés. Le SLS possède un second étage, équivalent du 3e étage de la Saturne V, et lui aussi est dérivé d'une technologie existante. C'est une version modifiée du 2e étage des fusées Delta IV de Boeing. Baptisé ICPS, je vous passe l'acronyme, ce module accouplé au 1er étage du SLS forme la configuration appelée Bloc 1 par la NASA, qui est capable d'envoyer une charge de 27 tonnes jusqu'à la Lune. Dans le futur, il doit être remplacé par une version appelée EUS, Exploration Upper Stage, plus puissante et composant la configuration bloc 1B du SLS capable d'acheminer vers la Lune une charge de 38 tonnes, là où la Saturne V avait une capacité de 45 tonnes. Lors du lancement, le premier étage propulse le SLS pendant 8 minutes et demie avant la séparation, il retombe à vide dans le Pacifique. Et c'est le 2e étage ICPS qui prend le relais pour la fin de la mise en orbite terrestre jusqu'à l'injection de la capsule Orion sur la trajectoire qui la conduira vers la Lune, environ 1h30 après le décollage. Et vers 2h, sa mission terminée, il se sépare de la capsule et il poursuit sa trajectoire balistique vers la Lune, dont il fera un tour avant d'être éjecté plus loin dans l'espace. Il faut noter qu'aucun élément du SLS, fusée d'appoint, 1er étage ou 2e étage, n'est récupérable et réutilisable, contrairement aux lanceurs privés de SpaceX qui nous ont habitués à un retour en douceur sur Terre pour d'autres lancements. Pour la mission Artemis 1, une charge secondaire est emportée sous forme de 10 microsatellites CubeSat, d'une taille d'environ une boîte à chaussures et ne pesant que quelques kilos, qui seront éjectés vers la Lune après la séparation du 2e étage, car ils sont placés dans la pièce de liaison avec le vaisseau Orion. Pour cette mission à haut risque, car le SLS n'a jamais été lancé auparavant, et la rentrée atmosphérique dont nous parlerons plus tard est aussi une première, il n'y a pas d'équipage à bord, et les astronautes ont été remplacés par des mannequins bardés de capteurs pour mesurer différents paramètres auxquels ils seront soumis pendant le périple. Température, accélération, radiation, etc. Cela permettra de mieux connaître les conditions auxquelles seront soumis les astronautes des futurs vols habités. Bien qu'inhabitée, la capsule Orion ira jusqu'à la Lune, qu'elle atteindra en environ 4 jours, puis se mettra en orbite autour d'elle. Pour ce changement de trajectoire, elle effectuera une manœuvre l'amenant à seulement 100 km de la surface, du côté de la face cachée. Mais son orbite sera beaucoup plus distante, sous forme d'une ellipse allongée, entre 3000 et 70 000 km de la Lune, soit presque un cinquième de la distance Terre-Lune. Elle effectuera seulement un tour et demi, mais assez lentement, ce qui lui prendra une dizaine de jours, avant de revenir vers la Terre en environ 4 jours et entrer dans l'atmosphère pour se freiner et se poser en douceur dans le Pacifique. Selon la date de lancement, donc la configuration Terre-Lune à ce moment-là, la durée totale de la mission sera entre 26 et 42 jours.
Mais cette capsule Orion est-elle semblable aux capsules Apollo utilisées dans les années 1960 ?
Alors dans sa conception, elle est analogue. Pour les anciens comme moi qui se souviennent des missions Apollo, le vaisseau était constitué de deux parties. La capsule proprement dite, aussi appelée module de commande, de forme conique, dans laquelle voyageaient les astronautes dans un espace très exigu, couplé à une partie cylindrique, appelée module de service, contenant tous les dispositifs nécessaires au fonctionnement de la capsule pendant le voyage. Moteur de propulsion, alimentation électrique, recyclage de l'air respiré par l'équipage, etc. C'est dans ce module de service qu'avait eu lieu l'explosion qui avait gravement mis en péril les astronautes d'Apollo 13. Au retour sur Terre, la capsule se sépara de ce module pour entrer seule dans l'atmosphère et revenir au sol. La conception d'Orion est analogue avec une capsule conique et un module de service. Ce dernier est aussi un recyclage d'un dispositif existant. Fourni par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, il est dérivé de l'ATV, un vaisseau cargo employé pour approvisionner automatiquement l'ISS entre 2008 et 2014. La principale différence avec Apollo est la taille de la capsule. Alors qu'Apollo faisait 3,90 m de diamètre et pouvait embarquer 3 astronautes, Orion fait un peu plus de 5 mètres et peut contenir jusqu'à 7 passagers pour des vols en orbite basse, par exemple vers l'ISS, mais seulement 4 pour des missions lunaires. Cette taille nettement supérieure, donc une masse plus importante, hein, 21 tonnes contre 6,5 tonnes pour Apollo, rend plus délicate la rentrée dans l'atmosphère car nécessite un freinage plus important. D'autant que la trajectoire choisie l'amène à une vitesse plus élevée, 11 km seconde, soit près de 40 000 km/h. Au lieu de rentrer avec un angle important, pour la première fois on utilisera la technique de rebond atmosphérique, consistant à pénétrer dans l'atmosphère sous un angle faible pour produire un rebond avant d'entrer sous un angle plus fort mais avec une vitesse nettement réduite. Cette manœuvre est très délicate, car si l'angle d'entrée n'est pas celui prévu, on peut risquer de se retrouver renvoyé définitivement dans l'espace. Elle était impossible à réaliser dans les années 1960, car la capacité de l'informatique embarquée à l'époque et la précision des systèmes de navigation ne le permettaient pas. C'est le progrès technique réalisé depuis qui la rend possible, mais on comprend que pour sa première utilisation, on ait préféré ne pas mettre d'astronaute dans la capsule. D'autant qu'un autre élément est totalement nouveau aussi, le bouclier thermique qui protège de l'échauffement intense produit par le frottement sur l'air à haute vitesse, jusqu'à 2700 degrés pour Orion. Des conditions impossibles à tester au sol pour un élément aussi gros que cette capsule. Un essai de rentrée atmosphérique d'Orion avait été réalisé en décembre 2014, mais à une vitesse un peu inférieure à celle d'un retour de la Lune, et surtout avec un bouclier thermique complètement différent de celui utilisé aujourd'hui, car à l'époque il était conçu à partir de tuiles céramiques dérivées de la technologie utilisée sur les navettes spatiales. Mais comme il s'était révélé très complexe et coûteux, on a choisi de revenir à la technologie utilisée sur les capsules Apollo à base d'un matériau composite qui se désagrège progressivement sous l'effet de la chaleur. Le bon fonctionnement de ce nouveau bouclier thermique est l'un des enjeux majeurs de la mission Artemis 1, car son succès conditionne la possibilité d'embarquer un équipage pour les prochains vols prévus.
Alors justement Michel, quelles sont les prochaines étapes du programme Artemis ?
Alors avant toute chose, il faut que nos auditeurs comprennent que la réussite de ce premier vol Artemis 1, notamment le bon décollage du SLS, la trajectoire et les manœuvres autour de la Lune, la rentrée atmosphérique avec le rebond et la résistance du bouclier thermique, conditionne toute la suite du programme qui devrait être complètement revue si une défaillance obligeait à modifier des éléments et à recommencer ce premier test sans équipage. Si tout se déroule comme prévu, le second vol, Artemis 2, emportera un équipage et un peu comme ce premier vol, ira jusqu'à la Lune pour tourner autour d'elle avant de revenir sur Terre en n'effectuant même pas une orbite complète autour de la Lune. C'est une sorte de répétition générale d'une mission lunaire qui est tout à fait semblable à la mission Apollo 8 qui avait orbité autour de la Lune la nuit de Noël 1968 et avait émerveillé les terriens avec la première image du globe terrestre complet flottant dans l'espace prise par des humains, puis le très fameux lever de Terre au-dessus de la surface stérile de la Lune. Artemis 2 est prévu pour mai 2024, soit presque 2 ans après Artemis 1, mais on peut s'attendre même à ce qu'il se décale plutôt vers la fin de 2024. Il est difficile de comparer avec le programme Apollo car il n'y a pas eu de mission comparable à Artemis 1, avec un vol inhabité vers la Lune. Le premier tir inhabité de la Saturne V était début novembre 1967, pour tester aussi la rentrée atmosphérique de la capsule Apollo. Puis 2 mois plus tard, en janvier 68, on testait le module lunaire, mais en orbite terrestre et toujours lors d'un vol non habité. La mission Apollo 6, en avril 68, 4 mois après le premier tir de la Saturne V, devait être assez semblable à Artemis 1, une mission non habitée jusqu'à la simulation d'un départ vers la Lune. Sauf que suite à une défaillance de moteur, elle n'a jamais pu réaliser cette simulation. Malgré cet échec, la NASA n'avait pas hésité à passer directement au vol habité, Apollo 7, en octobre 1968. Répétition générale de toutes les manœuvres d'une mission lunaire, mais en restant en orbite autour de la Terre. Puis en décembre 1968, soit plus d'un an après le premier tir de la Saturne V, Apollo 8, la mission habitée jusqu'à l'orbite lunaire. On doit constater qu'à l'époque, dans le contexte de la guerre froide et de la course à la Lune contre l'URSS, on prenait nettement moins en compte la vie des astronautes, qui étaient la plupart des militaires, pilotes d'essai, prêts à prendre des risques considérables pour le prestige des USA. Pour le premier vol habité Artemis 2 jusqu'à la Lune, on se laisse 2 ans d'intervalle pour régler tous les petits problèmes éventuels révélés par Artemis 1 et réduire au maximum les risques pour l'équipage. Il faut dire aussi que les budgets n'ont rien à voir avec l'effort exorbitant consenti par les USA pour le programme Apollo, représentant jusqu'à plus de 5% du budget de l'État fédéral en 1965 et 66. Bien que plus modeste, Artemis est un programme spatial coûteux, comparé aux autres missions comme les rovers envoyés vers Mars par exemple. Un tir du SLS est estimé à 4 milliards de dollars et le budget total du programme est de l'ordre de 35 milliards de dollars.
Mais ce n'est pas encore la vraie mission lunaire avec les pas de l'homme sur la Lune, comme Apollo 11 en 1969.
C'est l'étape que tout le monde attend avec Artemis 3 et le retour d'astronautes à la surface de la Lune. Cette mission est prévue pour 2025 au plus tôt, car certains éléments ne sont pas encore prêts. J'ai parlé tout à l'heure de la nouvelle version du deuxième étage du SLS, l'EUS, mais il n'est pas prévu qu'il vole avant 2026 et ne sera donc utilisé que lors de missions ultérieures pour pouvoir transporter plus de charges utiles. Ce qui manque dans la configuration actuelle du vaisseau Orion, c'est le module lunaire, le LEM, qui était arrimé à la capsule Apollo en orbite terrestre avant de partir vers la Lune. Elle allait se poser à la surface lunaire avec 2 astronautes, puis seul l'habitacle redécollait en laissant toute la base d'alunissage sur place pour rejoindre la capsule laissée en orbite avec le 3e astronaute afin de piloter le rendez-vous avec le LEM avant de revenir vers la Terre. Pour Artemis, la solution retenue est très différente, avec un élément clé qui n'est pas en place, une station permanente en orbite autour de la Lune nommée Lunar Gateway, passerelle lunaire en français, car servant d'étape intermédiaire entre la capsule Orion venant de la Terre et un vaisseau lunaire réutilisable, baptisé HLS, Human Landing System, pouvant faire la navette entre la station et le sol lunaire. Le concept de Lunar Gateway est apparu en 2017, notamment lors des réflexions sur le devenir des stations spatiales permanentes après l'ISS et la possibilité de disposer d'un relais spatial pour d'éventuelles missions plus lointaines dans l'avenir, comme par exemple à destination de Mars ou d'astéroïdes. Si à terme cette station pourrait devenir un assemblage assez énorme de modules comparables à l'ISS, son utilisation dans le cadre d'Artemis nécessite l'envoi de 2 modules. PPE, Power and Propulsion Element, qui est un peu le module de service assurant la propulsion, l'alimentation en énergie, etc. Et HALO, Habitation and Logistics Outpost, le module habitat pour les astronautes, d'où ils peuvent observer la Lune et réaliser des expériences. Cette station sera placée sur une orbite polaire stable autour de la Lune, très elliptique, la distance variant de 3000 à 70 000 km, très analogue à celle qui sera testée par Artemis 1. Il est prévu que ces 2 modules soient lancés en 2024 par le Falcon Heavy de SpaceX, un lanceur qui a été lancé la première fois en février 2018 avec un fort retentissement médiatique car on se souvient qu'il avait été, il avait propulsé un modèle de Tesla avec un mannequin en volant. Je rappelle que Tesla est une entreprise d'Elon Musk comme SpaceX. Et c'est encore à SpaceX que la NASA a confié en avril 2021 la réalisation de la navette HLS, qui ne serait autre que le vaisseau révolutionnaire Starship, une énorme fusée de 50 mètres qui se pose et redécolle comme la fusée de Tintin. SpaceX prévoit aussi des missions lunaires avec ce vaisseau propulsé par un énorme lanceur, Super Heavy, mais cette configuration n'a jamais volé à ce jour. Le Starship a réussi des vols de test depuis 2019. Le dernier réussi en mai 2021 l'avait propulsé jusqu'à 10 km d'altitude avant de revenir se poser en douceur. Donc comme on le voit, la suite du programme Artemis n'est pas pour demain, puisque les deux prochaines missions n'auront lieu au mieux qu'en 2024 et 2025, et le retour de l'homme à la surface de la Lune repose encore sur la réussite d'autres étapes, avec la mise en orbite lunaire de la Lunar Gateway et l'homologation du vaisseau Starship. Avec ce constat, on ne peut qu'être admiratif du travail réalisé dans les années 1960, où en partant de presque rien, en comparaison des réussites spatiales des Soviétiques, les Américains avaient réussi à amener un homme sur la Lune en moins de 10 ans, au prix d'efforts budgétaires et technologiques considérables. Dans tous les cas, la mission Artemis 1, qu'elle soit une réussite, ce qu'on souhaite tous, ou un échec, restera une étape historique dans cette reconquête de la Lune plus de 50 ans après Apollo, et j'invite tous nos auditeurs, s'ils le peuvent, à suivre ce lancement en direct samedi ou lundi. Et bien entendu, nous ne manquerons pas de revenir sur cet événement lors de notre prochaine chronique, en principe le mercredi 28 septembre.
Voilà, merci Michel pour cette belle chronique. Donc rendez-vous le 28 septembre prochain. C'est vrai qu'on a ce rendez-vous le dernier mercredi du mois. Des fois, on est obligé de changer voilà, en fonction des invités, etc.
Il y a de très très fortes chances pour que le 28, on soit fixé sur la réussite ou pas de la mission Artemis, puisque soit elle aura lieu à la fin de cette semaine, début de semaine prochaine, soit entre le 20 et le 29, la date la plus lointaine, ce serait le 29 septembre, mais ce serait pas de chance qu'elle tombe juste le lendemain de la chronique.
Bon, mais ça, on avisera. En tout cas, on vous attend le 28 septembre. Et puis, effectivement, voilà, ça fait partie de l'actu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avant de se quitter, Michel, qu'on peut retrouver, bien sûr, sur le site constellationsetgalaxies.org, toutes les chroniques. Donc, celle-ci qui va venir se rajouter, bien sûr, aux 89 autres.
Voilà.
Je ne sais pas si vous voulez compléter. Parce que là, vous avez courté. Et malheureusement, d'ailleurs, on n'aura pas Nicolas hein, pour des raisons indépendantes de sa volonté de l'Utopia. Donc là, merci quand même d'avoir écourté la chronique. Donc du coup, sans la faire à brûle pour point comme cela, je ne sais pas si vous avez d'autres infos à nous donner. C'est déjà assez éloquent, assez parlant, mais je ne sais pas si vous voulez compléter du coup.
Ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'une autre mission spatiale sur laquelle je suis parvenu, c'est bien sûr le JWST, hein, le fameux James Webb Space Telescope, qui continue à envoyer des images et des images d'une très grande qualité. Hein, tous les astronomes se félicitent de la qualité des résultats de ce télescope. Récemment, il y a eu la publication d'une image de Jupiter, alors qu'il y a une allure, disons, un peu bizarre, parce que je rappelle que le JWST fait des images dans l'infrarouge, hein, donc c'est pas du tout le Jupiter qu'on a l'habitude de voir dans le domaine visible, mais qui révèle des détails dans l'atmosphère de Jupiter, au niveau des interactions avec les satellites qui sont autour de lui, et le tout petit anneau de poussière qui tourne autour de Jupiter, hein, qu'on peut pas voir de la Terre, contrairement à ceux de Saturne. Donc le JWST continue à faire son travail et ça semble prometteur pour l'avancée des connaissances en astronomie dans différents domaines, hein, comme je l'ai déjà dit. Surtout le Big Bang avec les toutes premières galaxies et étoiles, la formation des étoiles qu'on peut voir dans les nuages de poussière, justement dans l'infrarouge, et un petit peu une meilleure connaissance des exoplanètes et des planètes du système solaire. Sinon, pour le ciel du mois, comme j'avais supprimé la rubrique, je peux le faire un peu à brûle pour point.
Oui, dans
le ciel, on est en plein ciel d'été. Hein, donc le soir, ce qu'on voit dans le ciel, on remarque tout de suite trois étoiles très brillantes qui forment un triangle allongé. Ce sont Vega de la Lyre, Altaïr de l'Aigle et Deneb du Cygne qui forment ce qu'on appelle le triangle de l'été, qui est un repère pour retrouver ces trois grandes constellations de l'été dans le ciel. Vers le Cygne et l'Aigle passe le ruban de la Voie lactée, mais pour ça, faut être dans une zone suffisamment noire, hein, et préservée de la pollution lumineuse. Donc pas possible dans une agglomération comme Bordeaux, hein, il faut être entre guillemets à la campagne, par exemple à Socats, au sud de Bordeaux, là où observe AG33.
Et vous êtes régulièrement aussi.
Pas régulièrement.
Là, pas régulièrement, allé, parce que c'est entre
j'étais
la Dordogne
allé spécialement,
et là,
mais... je reviendrai deux secondes après. Et donc, si on suit le ruban de la Voie lactée, on tombe sur les deux autres constellations visibles pratiquement au niveau de l'horizon sud, qui sont le Sagittaire, qui est très facile à reconnaître parce qu'il ressemble un peu à une théière, et à sa droite, donc vers l'ouest, le Scorpion. On a trois planètes en ce moment visibles, disons pas trop tard dans la nuit. La première, c'est Saturne. Elle est déjà levée quand il commence à faire nuit. Avec un petit télescope ou une petite lunette, on peut facilement voir ses anneaux. Derrière, on arrive Jupiter. Je crois qu'elle se lève autour de 10h30 en ce moment, quelque chose comme ça. Bon, je le fais de tête, hein, donc je suis pas sûr à 100%. Mais on peut pas la manquer dans le ciel parce que c'est comme un phare. Elle est très, très, très brillante. Après Vénus, c'est la planète la plus brillante qu'on puisse voir dans le ciel. Et un petit peu plus tard, on a Mars qui se lève, qui est reconnaissable à sa couleur orangée. Bon, Mars, c'est trop tôt pour l'observer, il est encore loin de la Terre, il est petit. Mais Jupiter, c'est un beau spectacle. Quand on a des conditions favorables, à une atmosphère assez stable et qui brouille pas trop l'image, on peut distinguer quelques détails de son atmosphère avec des bandes atmosphériques alternativement claires et foncées. Et surtout, le balai de ses quatre satellites autour de lui. Mardi dernier, j'étais dans un autre observatoire du côté de Fumel, à Montéral, plus précisément, et on a vu, c'est un joli spectacle aussi, Io qui passait devant Jupiter, et ce qui fait que son ombre est projetée sur Jupiter, et on voit le petit point noir de l'ombre sur Jupiter. Alors pour revenir à AG33, c'est spécialement que j'y suis allé samedi, parce que j'ai la chance de disposer d'un nouvel oculaire très très spécial et malheureusement très coûteux qui augmente la luminosité des objets qu'on observe. C'est une technique très particulière dérivée des systèmes de vision nocturne utilisés par les militaires. Et grâce à ce système, on voit, disons, des choses qu'on voit jamais habituellement dans un télescope, des nébuleuses qui se révèlent beaucoup mieux, etc. Et on avait déjà fait une expérience avec le fabricant, qui est dans la région Aquitaine. On avait déjà fait une expérience à AG33 en février, mais malheureusement, Corrie n'avait pas pu beaucoup en bénéficier parce qu'avec son côté très pédagogique, elle s'était beaucoup occupée des personnes qui étaient là. Il faut dire qu'il vient beaucoup de monde aux soirées d'observation d'AG33, et c'est tant mieux, dont des débutants qui apprennent à se servir dans le télescope, dont des enfants, et Corrie aime bien s'occuper des enfants pour leur faire découvrir un peu le ciel. Et du coup, en février, elle n'avait pas beaucoup pu en profiter. Donc, quand elle a su que j'avais ce type d'engin, elle m'a dit que ce serait bien que je revienne une fois, qu'elle puisse en profiter un peu plus. Et c'est ce qu'on a fait samedi. Et je crois que, comme tous les gens qui ont regardé là-dedans, elle s'est un petit peu régalée sur ce qu'on a pu voir dans le ciel avec ça.
Très bien. En tout cas, merci Michel, parce que je répète, vous avez courté votre chronique spécialement. Donc là, vous avez pu en dire quelques mots, comme cela de mémoire. Mais voilà, on se fie à votre amour de l'astronomie, votre passion, votre implication. Alors, pour se quitter, on va rappeler donc le site constellationsetgalaxies.org. Si j'avais une dernière question sur le site, il y a un contact, parce que c'est vrai que on l'a eu fait sur les premières chroniques de dire si les auditeurs, s'il y a une question qu'ils auraient envie de vous poser. Alors, il ne faut pas qu'ils vous la posent, bien sûr, pour le 28 septembre, le 27 au soir, sauf si c'est une réponse évidente. Mais là, il y a les contacts du coup sur le,
oui,
le
site.
Oui,
alors si on peut parler deux minutes du site. Donc, le site, entre guillemets, c'est un site un peu d'archives, puisqu'en fait, Constellation et Galaxies.
On trouve toutes les chroniques, de l'info.
Non, mais c'était surtout une association qui n'existe plus aujourd'hui.
Mais que vous continuez à faire vivre.
Mais je continue à faire vivre le site. Donc, c'est une association qui, principalement, gérait un petit planétarium itinérant qui allait dans les écoles, les collèges, les lycées de la région Aquitaine. Alors, pas toute la région, disons, centrée autour de Mussidan, en gros, de Bordeaux à Brive et de Villeneuve-sur-Lot à Angoulême, pour situer un peu les choses. Donc, ça n'existe plus, mais j'ai voulu garder le site pour garder justement un petit peu le témoignage de cette époque où on travaillait avec le planétarium. Donc il y a une partie qui parle du planétarium, il y a une partie qui parle des autres activités qu'on avait, des petits ateliers, par exemple des fusées ou des choses comme ça. Et sinon, la partie vivante, si on peut dire, du site, c'est vraiment la partie astronomie avec le ciel du mois et les chroniques aux deux radios. Et la toute dernière option, parce que ça se présente sous forme d'un menu, c'est très classique, sur un bandeau en haut de la page, la dernière option, c'est contact, où on peut effectivement trouver le mail ou me contacter sans problème.
Voilà, je m'en doutais, pas sur tous les sites. Et il y a les contacts, mais c'était au cas où. Hein, si,
et une partie, j'en voyais un petit peu dessus, qui peut intéresser les auditeurs qui s'intéressent à l'astronomie. Dans la toute première section du menu, qui s'appelle Association, où on parle un peu de l'association, de son histoire, de ses statuts, etc., il y a aussi une page de liens qui permet d'aller sur des sites web d'astronomie qui sont intéressants. Il y a par exemple tout un site sur le système solaire de l'IMCCE, hein, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Il y a le catalogue des objets Messier, les fameuses nébuleuses et galaxies qu'on observe souvent au télescope de l'Observatoire de Paris. Il y a des sites où on trouve de très belles images astro réalisées par des amateurs. Hein. Il y a des amateurs qui ont des matériels très pointus et qui font de très très belles images. Mais aussi des sites de météo, hein, parce qu'un des points pour l'astronomie, c'est quand même d'avoir un ciel clair, donc on s'intéresse pas mal à la météo. Enfin bref, toute une série de liens qui peuvent intéresser les auditeurs qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'astronomie, voir de belles images d'astronomie.
Voilà, donc n'hésitez pas via le site constellationsdesgalaxies.org. Si vous avez des questions à poser à Michel, n'attendez pas. Hein, je me répète, bien sûr, le 28 septembre, date de la prochaine chronique. En tout cas, merci Michel. Hein. Pour ce travail, voilà, c'est du travail, c'est de la passion, mais c'est quand même du travail qu'il faut saluer, hein, de mettre.
C'est un petit peu de travail de préparer les chroniques, surtout parce que je parle d'actualité, et donc jusqu'au dernier moment, il peut se passer quelque chose un jour ou deux avant le jour de la chronique. D'un autre côté, comme je l'ai déjà dit hors micro, je crois, c'est aussi un travail qui m'oblige à rester dans l'actualité, ce que peut-être je ferais un peu moins si j'étais pas un peu aiguillonné par la nécessité de rédiger la chronique tous les mois.
Allez, un grand merci Michel. On vous retrouve le 28 septembre pour la chronique Astro qui sera la numéro 91.